si l'on veut bien parcourir la Bible et examiner tous les passages dans lesquels l'expression « en mon nom » ou « en son nom » ou des expressions synonymes sont employées, on trouvera qu'elles ont un sens qui est très sensiblement celui de l'usage courant. Si je vais à la banque présenter un chèque portant ma signature, j'en demande le paiement en mon propre nom. Si j'ai de l'argent déposé dans cette banque, le chèque sera honoré, sinon il ne le sera pas. Si, par contre, je vais à la banque muni d'un chèque signé par une autre personne, c'est dans son nom que je demande et il n'importe point que moi j'ai de l'argent dans cette banque ou dans quelque autre, pourvu que la personne qui a signé le chèque ait de l'argent déposé là, le chèque sera honoré. Si, par exemple, j'allais à la First National Bank de Chicago présenter un chèque de $50 que j'aurais signé, le caissier me dirait « Mais, monsieur, Torrey, nous ne pouvons payer cela, vous n'avez point d'argent déposé ici. » Mais si j'allais à la First National Bank avec un chèque de $5,000 payable à mon nom, et signé par un des plus gros déposants de cette banque, on ne me demanderait nullement si j'ai de l'argent dans cette banque ou dans quelque autre, mais on honorerait le chèque immédiatement. Il en est de même quand je vais à la banque du ciel, quand je vais à Dieu dans la prière. Je n'ai là aucun dépôt. Je n'y ai absolument aucun crédit, et si je me présente en mon propre nom, je n'obtiendrai absolument rien, mais Jésus-Christ a, au ciel, un crédit illimité, et il m'a accordé le privilège d'aller à cette banque, avec des chèques signés de son nom. Si donc je me présente de la sorte, mes prières seront honorées, sans aucune limitation. Prier au nom de Christ, c'est donc prier en me fondant, non sur mon crédit mais sur le sien, c'est renoncer à la pensée que j'ai un droit quelconque à faire valoir auprès de Dieu et m'approcher de lui en me fondant sur les droits de Christ. Prier au nom de Christ, ce n'est pas simplement ajouter à ma prière la formule « Je demande ces choses au nom de Jésus ». Je puis mettre ces mots dans ma prière et cependant me reposer en réalité sur mes propres mérites. Au contraire, je puis omettre cette formule sans pour autant cesser de me reposer réellement sur les mérites de Christ. Mais quand je m'approche vraiment de Dieu, en me fondant non sur mes propres mérites mais sur ceux de Christ, non sur mes qualités, mais sur le sang de l'expiation, Hébreux 10, 19, Dieu m'écoutera. Beaucoup de prières aujourd'hui sont vaines parce que les hommes s'approchent de Dieu en s'imaginant qu'ils ont sur lui quelques droits qui l'obligeraient à exaucer leurs prières. Voici plusieurs années, alors que M. Moody débutait dans l'œuvre de Christ, il visitait une ville de l'Illinois. Il y avait dans la ville un juge incrédule. La femme de ce juge supplia M. Moody de rendre visite à son mari, mais celui-ci répondit « Je ne puis pas tenir une conversation avec votre mari, je ne suis qu'un jeune chrétien sans instruction, et votre mari est un incrédule lettré. » Mais elle n'était pas femme à s'accommoder d'un refus, monsieur. Moody fit la visite. Les clercs ricanèrent en voyant le jeune vendeur de Chicago entrer dans le bureau pour parler au juge érudit. La conversation fut courte. Monsieur, Moody dit. Monsieur le juge, je ne puis tenir une conversation avec vous, vous êtes un incrédule lettré et je n'ai pas d'instruction. Mais je veux simplement vous dire que, si jamais vous vous convertissez, je demande que vous me le fassiez savoir. Le juge répondit, c'est entendu, jeune homme. Si jamais je me convertis, je vous en informerai, je vous le promets. La conversation finit là. Les clercs ricanèrent encore plus fort quand le jeune chrétien zélé quitta le bureau, mais le juge fut converti dans l'année. Monsieur Moody, visitant à nouveau la ville, demanda au juge de lui expliquer comment cela s'était produit. Le juge dit un soir, tandis que ma femme était à une réunion de prière, je commençais à me sentir mal à l'aise et malheureux. Je ne savais pas ce que j'avais, mais finalement je me retirais dans ma chambre avant le retour de ma femme. Je ne pus dormir cette nuit-là. Je me levai tôt le lendemain, dis à ma femme que je ne prendrais point de petit déjeuner et descendis au bureau. Je donnai congé au clerc et m'enfermai dans mon bureau privé. Je me sentais de plus en plus malheureux et finalement je tombai à genoux et demandai à Dieu de pardonner mes péchés, mais je ne voulais pas dire au nom de Jésus, car j'étais unitérin et je ne croyais pas à l'expiation. Je continuai à prier au Dieu, pardonne mes péchés, mais sans recevoir aucune réponse. À la fin, désespéré, je criai au Dieu, au nom de Jésus, pardonne mes péchés et aussitôt de trouver la paix. Le juge n'eut aucun accès auprès de Dieu jusqu'à ce qu'il s'approchât au nom de Christ, mais dès qu'il le fit, il fut entendu et exaucé. 2. L'apôtre Jean projette une grande lumière sur ce sujet, comment prier par ses paroles nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean 5, 14-15. Ce passage nous enseigne clairement que pour prier de la bonne manière, nous devons prier selon les volontés de Dieu. Alors sans aucun doute, nous obtiendrons la chose que nous lui demandons. Mais pouvons-nous connaître la volonté de Dieu? Pouvons-nous savoir si une quelconque prière particulière est conforme à sa volonté? Nous le pouvons certainement. Comment ? 1. D'abord par la parole. Dieu a révélé sa volonté dans sa parole. Si une chose quelconque fait l'objet d'une promesse précise dans la parole de Dieu, nous savons que c'est sa volonté de l'accorder. Si donc, quand je prie, je puis trouver quelque promesse précise de la parole de Dieu et placer cette promesse devant lui, je sais qu'il m'entend et, si je sais qu'il m'entend, je sais que je possède la chose que je lui ai demandée. Par exemple, si je prie pour obtenir de la sagesse, je sais que c'est la volonté de Dieu de me donner de la sagesse, car il le dit en Jacques 1:5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Ainsi donc, quand je demande de la sagesse, je sais que la prière est entendue et que cette sagesse me sera donnée. De même, quand je prie pour obtenir le Saint-Esprit, je sais d'après Luc 11:13, que c'est la volonté de Dieu, que ma prière est entendue et que j'ai reçu l'objet de ma requête. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Il y a quelques années, un serviteur de Dieu vint à moi à la fin d'un message sur la prière donnée dans une union chrétienne de jeunes gens et me dit « Vous avez donné à ces jeunes gens l'impression qu'ils peuvent demander des choses précises et obtenir les choses mêmes qu'ils demandent. » « Je ne sais, répondis-je, si c'est bien là l'impression que j'ai produite, mais c'est certainement celle que j'ai voulu produire. » Mais, reprit-il, cela n'est pas exact. Nous ne pouvons pas être sûrs, car nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Je le renvoyai immédiatement à Jacques 1:5. Je lui dis, n'est-ce pas la volonté de Dieu de nous donner de la sagesse, et si vous demandez de la sagesse, ne savez-vous pas que vous allez l'obtenir? Ah. Dit-il, nous ignorons ce qu'est la sagesse. Évidemment, répondis-je, si nous le savions, nous n'aurions pas besoin de la demander, mais quoi qu'elle puisse être, ne savez-vous pas que vous l'obtiendrez? C'est certainement notre privilège de pouvoir connaître la volonté de Dieu, et quand nous avons une promesse précise dans la parole de Dieu, si nous doutons que telle soit la volonté de Dieu, ou si nous doutons que Dieu veuille faire la chose que nous demandons, nous faisons Dieu menteur. Voici l'un des plus grands secrets de la prière victorieuse. Étudiez les Écritures pour trouver ce qu'est la volonté de Dieu telle qu'elle s'y trouve révélée par ses promesses, puis, tout simplement, saisir ses promesses et les déployer devant Dieu dans la prière, comptant d'une manière absolument inébranlable qu'il fera ce qu'il a promis dans sa parole. 2. Mais il y a encore un autre moyen de connaître la volonté de Dieu, et c'est par l'enseignement de son Saint-Esprit. Nous avons besoin de beaucoup de choses qu'il nous faut recevoir de Dieu et qui ne sont couvertes par aucune promesse spéciale, mais, même dans ce cas, nous ne sommes pas laissés dans l'ignorance de la volonté de Dieu. Dans Romains 8, 26-27, il nous est dit de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il nous est clairement dit ici que l'Esprit de Dieu prie en nous, suscite notre prière dans le sens de la volonté de Dieu. Quand nous sommes ainsi conduits par l'Esprit de Dieu dans une direction quelconque, à prier pour quelque objet donné, nous pouvons le faire, pleinement assurés que c'est la volonté de Dieu et que nous allons obtenir la chose même que nous lui demandons, bien qu'il n'y ait aucune promesse spéciale qui couvre ce cas. Souvent Dieu nous charge, par son esprit, d'un lourd fardeau de prière pour une certaine personne. Nous n'avons point de repos, nous prions pour elle avec des soupirs inexprimables. Il se peut que la personne soit tout à fait hors de notre portée, mais Dieu entend la prière, et dans bien des cas il ne s'écoule pas longtemps avant que nous apprenions qu'elle est effectivement convertie. Ce passage de 1 Jean 5, 14-15, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions. Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée est, de toute la Bible, l'un de ceux dont a fait le plus mauvais usage. C'est sans aucun doute pour encourager notre foi que le Saint-Esprit l'a placée dans la Bible. Il commence par « Nous avons auprès de lui cette assurance ». Et s'achève sur « Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée », mais on emploie souvent, pour introduire un élément d'incertitude dans nos prières, ce passage si manifestement donné pour engendrer l'assurance. Fréquemment, quand quelqu'un commence à prier avec une assurance croissante, quelque frère prudent vient lui dire « Allons, ne soyez pas trop assuré. Si c'est la volonté de Dieu, il le fera ». Mais vous devriez ajouter à votre demande, si c'est ta volonté. Sans doute il arrive souvent que nous ne connaissions pas la volonté de Dieu, et dans toute prière la soumission à la volonté parfaite de Dieu devrait être sous-entendue, mais quand nous connaissons la volonté de Dieu, il ne doit plus y avoir de si. Ce passage n'a pas été placé dans la Bible pour que nous introduisions des si dans nos prières, mais pour que nous les jetions tout souvent, pour que nous ayons de l'assurance et que nous sachions que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1. L'unitarianisme, ou ceci n'y a ni isme ni la divinité de Jésus-Christ. Comment prier ? Veuillez prier par l'Esprit. 1. À de multiples reprises dans ce qui précède, nous avons pu constater que nous dépendons du Saint-Esprit dans la prière. Ceci ressort avec une grande netteté dans Éphésiens 6, 18, priant en tout temps par l'Esprit par toutes sortes de prières et de supplications. Et dans Jude 1, 20, priant par le Saint-Esprit. Effectivement, tout le secret de la prière réside dans ces mots par l'Esprit. La prière que Dieu le Père exauce, c'est celle que Dieu le Saint-Esprit a inspirée. Les disciples ne savaient pas comment prier. Aussi vinrent-ils demander à Jésus: « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Nous non plus, nous ne savons pas comment il faut prier, ni nous avons aussi un maître et un guide tout près de nous pour nous aider. Jean 14, 16-17 « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse ». Romains 8, 26 « Il nous enseigne comment prier ». La vraie prière est la prière par l'Esprit, c'est-à-dire la prière que l'Esprit inspire et dirige. Quand nous nous plaçons dans la présence de Dieu, il faudrait que nous reconnaissions notre faiblesse, notre ignorance des sujets à présenter dans la prière et de la manière de les présenter. Conscient alors de notre incapacité à prier comme il faut, nous devrions élever nos pensées vers le Saint-Esprit, nous reposant pleinement sur lui pour diriger nos prières, orienter nos désirs et en guider l'expression. Rien n'est plus insensé quand nous prions que de nous précipiter étourdiment dans la présence de Dieu pour demander la première chose qui nous vient à l'esprit ou pour laquelle quelqu'un y réfléchit nous a demandé de prier. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, nous devrions tout d'abord garder le silence devant lui. Nous devrions regarder à lui pour qu'il nous envoie son Saint-Esprit afin de nous enseigner comment prier. Il nous faut attendre le Saint-Esprit, nous soumettre à l'Esprit, alors seulement nous prierons de la bonne manière. Fréquemment, quand nous venons à Dieu dans la prière, nous ne nous sentons pas disposés à prier. Que faire en pareil cas? Cesser de prier jusqu'à ce qu'on s'y sente disposé? Point du tout. C'est précisément quand nous nous sentons le moins disposés à prier que nous en avons le plus besoin. Nous devrions nous tenir en paix devant Dieu et lui dire combien nos cœurs sont froids et vides de prière, regarder à lui, lui faire confiance et attendre de lui qu'il envoie son Saint-Esprit pour réchauffer nos cœurs et les élever dans la prière. Il ne faudra pas longtemps pour que l'ardeur de la présence du Saint-Esprit remplisse nos cœurs et pour que nous commencions à prier librement, d'une manière directe, fervente et puissante. Beaucoup des moments de prière les plus bénis que j'ai jamais connus ont commencé dans un sentiment profond de mort spirituelle et une absence complète d'esprit de prière. Mais dans mon impuissance et ma froideur, je me suis abandonné à Dieu, j'ai regardé à lui pour qu'il m'envoie son Saint-Esprit, afin de m'enseigner à prier et il l'a fait. Quand nous prions par l'Esprit, nous demandons ce qui convient et comme il convient. Il y aura joie et puissance dans notre prière. 2. Pour prier avec puissance, il nous faut prier avec foi. Jésus dit : c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, 24 quelque positive, que soit une promesse de la parole de Dieu, nous n'aurons la joie d'expérimenter effectivement son accomplissement que si nous nous attendons avec confiance à l'exaucement de notre prière. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, dit Jacques, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Cette promesse est aussi formelle qu'une promesse peut l'être, néanmoins le verset suivant ajoute mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur? Jacques 1, 5-7 Il faut qu'il y ait donc une attente confiante et imperturbable. Mais il y a une foi qui va plus loin que l'attente, qui croit que la prière est entendue et la promesse accomplie. C'est ce qui ressort du verset, déjà cité « C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Mais comment acquérir une telle foi? Disons avec la dernière énergie que ce ne peut être en si évertuant. Plus d'un ayant lu cette promesse faite à la prière de la foi, demande les choses qu'il désire et essaye de se persuader que Dieu a entendu la prière. Ceci ne peut amener que des appointements, car ce n'est pas la foi réelle et la chose n'est pas accordée. C'est sur ce point qu'en essayant de produire la foi par un effort de leur volonté bien des gens, provoquent au contraire l'effondrement de leur foi. La chose qu'ils s'étaient efforcés d'attendre avec foi, ne leur étant pas donnée, le fondement même de leur foi s'en trouve le plus souvent sapé. Mais alors, comment vient la vraie foi? Romains 10, 17 répond à cette question ainsi « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pour avoir une foi véritable, nous devons étudier la parole de Dieu, découvrir ce qui y est promis puis, tout simplement, croire aux promesses de Dieu. La foi doit être couverte par une garantie. Essayer de croire quelque chose parce qu'on veut y croire n'est pas de la foi, mais croire ce que Dieu dit dans sa parole, voilà la foi. Si je veux avoir de la foi en priant, il faut que je trouve quelques promesses dans la parole de Dieu sur laquelle ma foi puisse reposer. La foi en outre vient par l'Esprit. L'Esprit connaît la volonté de Dieu, et si je prie par l'Esprit et compte sur l'Esprit pour m'enseigner la volonté de Dieu, il me conduira dans la prière selon sa volonté et me donnera l'assurance que la prière va être exaucée. Mais en aucun cas la foi véritable ne vient de ce que nous avons simplement décidé que nous allons obtenir la chose désirée. S'il n'y a ni promesse dans la parole de Dieu, ni indication claire de l'Esprit, il ne peut y avoir aucune foi véritable et on ne devrait jamais se reprocher de manquer de foi en pareil cas. Mais si la chose désirée est promise dans la parole de Dieu et que nous doutions, nous avons tout lieu de nous condamner à cause de notre manque de foi. Car nous faisons Dieu menteur en doutant de sa parole. Comment prier? 6. Toujours prier et ne point se relâcher. Par deux paraboles de l'évangile de Luc, Jésus enseigne avec beaucoup de force cette leçon, que les hommes doivent toujours prier et ne point se relâcher. La première se trouve en Luc 11, 5-8, et l'autre en Luc 18, 1-8. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains, je vous le dis, quand même il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. » Luc 11, 5-8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit il y avait, dans une ville, un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête ». Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. » Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, 1-8 dans la première de ces deux paraboles, Jésus expose d'une façon saisissante la nécessité de prier jusqu'à l'importunité.